Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Karel Benistan. Docteur Benistan, bonjour.
Bonjour.
Docteur Benistan, vous êtes médecin, clinicien, responsable des consultations maladies rares, syndrome d'Ehlers dans l'os à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, au sein du centre de référence des syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire. Et vous avez également coordonné l'élaboration du récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur les syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire, sous l'égide de la filière Oscar. Alors, docteur Benistan, nous allons aborder aujourd'hui la prise en charge des syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire. Et pour débuter notre entretien, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la prise en charge ostéo-articulaire de ces syndromes ?
Oui, il n'existe pas de traitement spécifique pour l'instant dans cette prise en charge. Elle est donc symptomatique. Tout d'abord, la douleur est un symptôme quasi constant qui représente le principal motif de consultation. Et le choix des antalgiques va être guidé par le type de douleur et par l'âge des malades. La prescription des antalgiques est encadrée par des recommandations de bon usage proposées par la Société française d'études et de traitement de la douleur. En cas de douleur aiguë, des antalgiques doivent être prescrits pour éviter que la douleur ne s'installe et devienne chronique. Ils peuvent être associés à des traitements locaux comme l'application de chaleur, de patch ou d'orthèse antalgique. Lorsque la douleur devient chronique, elle est invalidante et peut impacter différents domaines de la vie. L'école, le travail, la famille, avec des conséquences psychosociales. Il est alors important d'adresser le patient en centre de prise en charge de la douleur pour qu'il bénéficie d'une prise en charge globale, biopsychosociale, et ainsi briser le cercle vicieux de la douleur chronique. Des thérapies non médicamenteuses peuvent aussi être proposées, en particulier l'hypnose, la sophrologie, la relaxation. Elles aident à mieux gérer les douleurs et à lutter contre la kinésiophobie. En revanche, il faut être prudent concernant l'utilisation de certains traitements qui n'ont pas l'AMM dans les syndromes d'Ehlers dans l'os et qui peuvent avoir des effets secondaires. En parallèle, un programme de rééducation adapté est proposé aux malades. Il est idéalement supervisé par un médecin de médecine physique et de réadaptation, en particulier lorsque la situation devient difficile à gérer en ville. Le kinésithérapeute va travailler la reprogrammation sensitivo-motrice, la posture, la proprioception, le renforcement musculaire et l'endurance. Et des autoprogrammes d'exercices personnalisés sont ensuite reproduits à domicile par les patients. Il faut éviter les dispenses totales de sport chez l'enfant et maintenir une activité physique adaptée tout au long de la vie pour éviter le déconditionnement à l'effort et ses conséquences cardio-pulmonaires. Les ergothérapeutes interviennent afin d'identifier des outils pour faciliter le quotidien et adapter l'environnement des malades. Et les psychomotriciens peuvent aussi jouer un rôle très important auprès de ces malades. Certains malades peuvent nécessiter des appareillages spécifiques, des orthèses, corsets, semelles orthopédiques et autres aides techniques. Et enfin, dans certains cas, la question d'une intervention chirurgicale orthopédique va se poser. Ces décisions doivent être prises en concertation avec des chirurgiens experts de ces pathologies, car certaines techniques sont plus appropriées que d'autres. Et de plus, la chirurgie comporte des risques chez ces malades. Chaque décision doit donc être bien pesée.
Alors, au-delà des manifestations ostéo-articulaires, on observe également de nombreux retentissements fonctionnels des syndromes d'Ehlers dans l'os non-vasculaire. Comment prendre en charge ces retentissements fonctionnels ?
Oui, alors ce sont des symptômes fréquemment rapportés qui peuvent être une fatigabilité, des troubles du sommeil, des troubles fonctionnels cardiologiques, digestifs, vésico-sphinctériens et des symptômes gynécologiques. Un avis spécialisé est alors proposé en fonction de ces points d'appel. Certaines recommandations et traitements peuvent avoir en effet un effet sur ces symptômes. Certains patients ont aussi besoin de kiné ventilatoire ou périnéale. Et par ailleurs, des mesures de lutte contre la fatigue chronique peuvent être adoptées pour mieux gérer le quotidien. Dans tous les cas, l'accompagnement psychologique et social de ces malades est essentiel. Et on comprend bien que la prise en charge est multidisciplinaire, avec pour objectif de prévenir les complications, de restaurer la qualité de vie et de développer des stratégies d'adaptation pour maintenir une autonomie. Pour ce qui est de la fragilité tissulaire, les endoscopies et autres gestes invasifs seront toujours prudents et adaptés au degré de fragilité tissulaire estimé pour chaque patient. Et en cas de fragilité de la peau, il est recommandé de protéger les angles du mobilier, de prescrire des protections mousse aux enfants pour éviter des cicatrices inesthétiques. En cas de suture, il faut mettre plus de points, utiliser du fil non résorbable et le laisser en place plus longtemps. Le protocole national de diagnostic et de soins pour les patients souffrant de syndrome d'Ehlers-Danlos est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé avec l'ensemble des recommandations de prise en charge.
Très bien. Alors, en préparant cet entretien, Dr Benistan, vous avez insisté sur le rôle important de l'éducation thérapeutique des patients dans cette maladie. Justement, quel rôle joue l'ETP dans la prise en charge et comment l'intégrez-vous dans votre projet de soins ?
Oui, plusieurs programmes d'ETP destinés aux patients atteints de syndrome d'Ehlers-Danlos non vasculaire sont maintenant proposés en France. Ces programmes d'éducation thérapeutique sont très utiles et appréciés des malades. Plusieurs thématiques sont abordées, la douleur, mobilité, droits sociaux, images de soi, outils de l'ergothérapeute, diététique, activité physique adaptée, annonce diagnostique, maladie génétique, etc. Il s'agit d'ateliers collectifs et individuels animés par médecins, infirmières, kinésithérapeutes, psychomotriciens, assistantes sociales, psychologues, diététiciens, ergothérapeutes. Et par ailleurs, des outils ont été développés par le centre de référence pour faciliter la compréhension de la maladie et sa prise en charge. Et ces tutoriels sont disponibles sur le site de la filière OSCAR. De plus, des programmes d'éducation thérapeutique en e-learning sont développés pour faciliter l'accès aux patients éloignés du centre.
Dernière question, Dr Benistan, puisqu'on arrive au terme de notre entretien. En cas de suspicion ou de diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos non vasculaire, pourquoi recommander aux praticiens d'orienter les patients vers un centre expert ?
Eh bien, on se rend compte que le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos est souvent posé tardivement, ce qui retarde sa prise en charge adaptée. Alors, devant une hyperlaxité, des entorses, luxations à répétition, des scolioses, et puis tout cela associé à une fragilité tissulaire, il est important de penser à un syndrome d'Ehlers-Danlos. Pour chaque type de syndrome d'Ehlers-Danlos, il existe une liste de critères diagnostiques, mais ces diagnostics restent parfois difficiles à poser. En cas de suspicion, le médecin traitant va donc adresser dans un premier temps le malade pour un avis dans un service hospitalier. Le plus urgent sera de dépister les formes sévères pour anticiper et prévenir les complications. Ce sont ensuite les spécialistes qui adressent les malades vers un centre de compétence ou de référence après avoir réalisé un bilan biologique et radiologique minimum initial pour éliminer les diagnostics différentiels. Les équipes du centre de référence étant petites, cette organisation permet d'éviter un afflux de malades qui conduirait à un allongement des délais de consultation. Le centre de référence va apporter son expertise clinique, discuter de l'indication d'un test génétique, en analyser les résultats et assurer la coordination des soins spécifiques à la maladie, toujours en lien avec le médecin traitant et le réseau de soins ambulatoires. Il a aussi un rôle de recours dans certaines situations complexes. Il est important de bien typer le syndrome d'Ehlers-Danlos dont souffre un patient, car cela permet d'adapter la surveillance, les recommandations et les précautions de prise en charge. Le centre de référence est rattaché à la filière OSCAR. Il est composé de 2 centres constitutifs et 13 centres de compétences répartis en France. En dehors de son activité d'expertise, ses missions sont de tenir à jour des bases de données cliniques, épidémiologiques et génétiques, de rédiger des recommandations de prise en charge, de développer la recherche sur ces pathologies, de mettre en place des études cliniques, de développer le réseau de soins autour de ces malades avec les centres de compétences et avec le réseau de ville-hôpital, et puis enfin de développer l'enseignement et la communication autour de ces maladies.
Eh bien, merci infiniment, Dr Benistan, de nous avoir éclairé sur la prise en charge des syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaire. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de ces pathologies, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur les syndromes d'Ehlers-Danlos avec le point de vue d'une patiente cette fois. À très vite.